La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
16 États américains lancent la contre-attaque judiciaire contre Donald Trump et l'urgence nationale décrétée vendredi pour faire construire coûte que coûte son mur à la frontière mexicaine.
Allez, je vous épargne la liste des 16 États en question, mais sachez tout de même que c'est en Californie que la plainte a été officiellement déposée hier. Elle conteste donc la constitutionnalité de cette urgence nationale décrétée par Donald Trump. Dans le Los Angeles Times, on cite donc le procureur général californien Xavier Becerra qui porte la procédure. Il s'agit selon lui de bloquer l'abus des pouvoirs présidentiels auxquels se livrerait le chef de l'État. Car l'urgence nationale, c'est l'arme ultime pour le président. Elle lui permet de débloquer des fonds publics sans approbation du Congrès, alors que ce même Congrès avait refusé de débloquer le budget voulu par Trump pour construire le mur. Je vous épargne le résumé des épisodes précédents. Le Washington Post précise que pour trouver les 6,5 milliards de dollars dont il a besoin, Donald Trump veut siphonner en particulier les budgets de l'armée. C'est un détournement caractérisé de l'argent des contribuables à des fins politiques, selon les représentants donc des 16 États plaignants, dont on ne s'étonnera pas qu'ils soient tous gouvernés par des démocrates, à l'exception tout de même du Maryland. Et voici donc la justice américaine sommée d'arbitrer la nouvelle bataille politique de l'ère Trump, la plus massive encore jamais vue, selon le Washington Post. De son côté, vu du Royaume-Uni, le Guardian insiste sur un autre aspect de la controverse judiciaire. Trump, vendredi, en annonçant donc son recours à l'urgence nationale, a expliqué qu'il aurait pu choisir de construire son mur sur une plus longue durée, qu'il n'avait pas vraiment besoin de décréter l'urgence, mais qu'il l'a fait parce qu'il voulait que ça aille vite. Une petite phrase lâchée sans trop y penser, mais qui pourrait bien se retourner contre le président américain face au juge comme un aveu d'abus de cette procédure d'urgence. Quoi qu'il en soit, ce dépôt de plainte de 16 États ne fait finalement que confirmer ce que Donald Trump annonçait dès vendredi sur un ton volontairement badin. Et nous allons décréter l'urgence nationale et ils vont nous attaquer en justice et nous allons certainement avoir un jugement en notre défaveur et encore un autre jugement contre nous en appel. Tout ça finira, dit Donald Trump, devant la Cour suprême qui enfin nous traitera de manière équitable et nous gagnerons devant la Cour suprême. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir, on comprend bien s'il en était besoin. Pourquoi il était si important l'automne dernier pour Donald Trump d'imposer à la Cour suprême le juge Brett Kavanaugh dont il peut être sûr de la loyauté à toute épreuve.
Et à 3 mois des élections fédérales en Australie, Camille, le gouvernement révélait hier que les serveurs du Parlement et des principaux partis politiques ont été la cible d'une vaste cyberattaque.
Et voilà la politique australienne confrontée à son tour au spectre d'une intervention malveillante d'une puissance étrangère dans son processus électoral, écrit l'Australian Financial Review, car il n'y a pas de doute possible, seuls des agents d'une puissance étatique peuvent se livrer à de tels piratages, c'est ce qu'indiquait hier le Premier ministre australien Scott Morrison, sans livrer toutefois le nom de l'État soupçonné. Les médias australiens l'ont fait à sa place, comme la chaîne Nine News.
It's believed the attack has actually come from a foreign government. The Prime Minister Nazio won't publicly confirm any suspects, but intelligence sources have told Nine News that most attacks of this kind on Australia come from China.
La Chine, donc désignée dans la presse sur la foi de sources officielles du renseignement australien, c'est elle, la Chine, en tout cas, dit la journaliste de Nine News, qui est derrière les attaques de ce genre d'habitude sur l'Australie. Et voilà donc l'information la plus importante développée ce matin, entre autres par le journal en ligne The Conversation. Au-delà des cris d'orfraie du gouvernement qui brandit la menace d'une immixtion à la russe sur les élections à venir, les spécialistes de cybersécurité, eux, qui sont cités donc par The Conversation, nous disent clairement que oui, ce genre de piratage, c'est la nouvelle norme dans le monde aujourd'hui. Près de 1100 cyberincidents de ce genre ont été signalés l'an dernier à l'autorité australienne pour la cybersécurité. Mais là, forcément, vu les cibles, le calendrier électoral et les précédents internationaux, l'affaire devient éminemment politique. Pour autant, l'Australie et ses partis, ses institutions démocratiques ne doivent pas jouer les vierges effarouchées, analyse Peter Archer dans le Sydney Morning Herald. Quand les dirigeants politiques australiens font mine de perdre leur virginité sur Internet, d'autres pays ont déjà depuis longtemps intégré cette réalité de la guerre du web qui ne fait que commencer, une guerre d'une telle ampleur qu'elle ne peut pas être nommée. C'est pourquoi, nous dit le Sydney Morning Herald, le Premier ministre australien a refusé hier de pointer clairement du doigt la Chine alors qu'il avait accusé la Russie sans hésitation lors de précédentes cyberattaques.
Et puis on termine par une anti-ligue du LOL, Camille, où comment des groupes de femmes sur Facebook permettent aux Soudanaises de lutter contre la corruption.
Oui, c'est un reportage repéré il y a quelques jours sur le site BuzzFeed News aux États-Unis. Sa correspondante à Khartoum, Tamara Griffin, nous raconte donc que des milliers de jeunes femmes soudanaises à qui les lois morales interdisent de se réunir en public ont pris l'habitude de discuter sur des groupes Facebook privés pour échanger sur leur vie sentimentale et dire du mal, parfois même du bien tout de même, des hommes qu'elles rencontrent. Des discussions, a priori sans conséquence, mais ces internautes se retrouvent aujourd'hui au cœur de la mobilisation populaire qui agite le Soudan depuis 2 mois contre la corruption de l'État à tous les étages. Elles en ont même été l'un des éléments déclencheurs, nous dit le reportage de BuzzFeed, tant ces espaces de liberté sur Internet ont progressivement délaissé leur vocation romantique première pour aborder des sujets de plus en plus politiques. Al Jazeera consacre un reportage à ce phénomène. Au fil du temps, nous explique-t-on, les participantes au groupe Facebook ne postaient plus les photos de leurs prétendants pour savoir qui ils étaient, si l'on pouvait leur faire confiance, mais bien des photos de policiers pris la main dans le sac pour des faits de corruption. Ainsi sont nées des sortes de ligues virtuelles de justice féminine, ligues de dénonciation aussi, car les noms et parfois même numéros de téléphone, adresses des policiers ripoux ont été divulgués pour les mettre face à leurs responsabilités. C'est radical, certes, mais en tout cas, ça nous explique pourquoi on retrouve autant de femmes, souvent très jeunes, dans les manifestations, souvent violemment réprimées, qui se poursuivent à travers le Soudan.
Merci beaucoup Camille Magnard pour cette revue de presse internationale.